tu joues ?
Bonjour, je suis Jean.
Salut, moi c'est Arnaud.
Bonjour, moi c'est Céline.
Hello, c'est Michael.
Et je suis le Père Noël. Nous sommes au mois de décembre et vous écoutez Papa, à quoi tu joues ? Ho ho ho.
Ah, j'avais dit que c'était merdique.
Non mais... que dire ? Rien, je trouve ça super impair.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Papa à quoi tu joues, le numéro 14, le numéro du mois de décembre, en partenariat avec smartdads.fr, le site des papas d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a une émission à 4, on est beaucoup. Bonjour messieurs, dames.
Salut.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui.
Parfait.
Très bien.
Donc, Arnaud, tout le monde le connaît. Céline, c'est la deuxième fois que tu viens, les gens étaient impatients de t'entendre à nouveau. Et Michael, toi aussi, c'est la deuxième fois que tu viens.
Eh oui.
C'est parce que Arnaud t'a trouvé tellement beau et séduisant qu'il a insisté pour que tu sois à nouveau dans cette émission parce que tu as quelque chose qui l'intéresse fortement.
Je plaide coupable.
Donc voilà.
Ouais, ça me fait très plaisir en tout cas. Merci beaucoup.
Écoute, plaisir partagé. Plaisir partagé. On va vite faire un petit point sur ce qui s'est passé durant ce mois de novembre parce qu'il y a eu énormément de choses qui très stimulantes qui se sont passées. Déjà, suite à l'invitation dont tu faisais partie, Michael, au podcast anniversaire, on a eu une affluence d'audience. On a en fait doublé notre meilleure audience, c'est-à-dire on a passé le cap des 1000 auditeurs.
Eh ben.
Donc, merci. Alors, j'ai vu dans les stats que tu nous en avais envoyé pas mal en faisant un lien sur ton blog. Donc, déjà, merci à toi. C'était très, très stimulant, d'autant que grâce à ça, on est arrivé 53e au classement iTunes il y a quelques semaines dans la page Jeux et Hobbies. Et on était même sur la page d'accueil des recommandations. Oui,
je pense que ça y est, on peut se la péter.
On était tout en bas de la liste de la première page, hein, mais on y était. C'est quand même très motivant. On a en plus, ça arrête pas, un nouveau commentaire iTunes de Space Worm qui nous dit qu'on est un très bon podcast parce que son nain lui prend un temps fou entre ses journées de travail et donc il continue à jouer sur iPad et donc apparemment il aime le podcast puisqu'il nous a donné 4 étoiles. Ouais. On a eu des commentaires aussi très sympathiques sur le site internet de Chris qui nous félicite pour notre boulot et avec un petit bémol sur le son que je mets en arrière-plan, mais c'est pas le premier à me faire la remarque, et chaque fois je baisse un petit peu le volume de la musique que je mets en arrière-plan, mais apparemment c'est jamais suffisant, donc je veille au grain. La chose que j'avais teasé pas mal sur Twitter, c'était aussi l'invitation que j'avais reçue de Patrick Béja pour participer à sa première émission, Le Rendez-vous Jeu. J'étais très 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 content. Si vous trouvez qu'on ne creuse pas assez dans l'émission, parce que c'est pas notre but de creuser plus que ça, si vous voulez un complément d'information sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on n'a pas dit, allez écouter le rendez-vous jeu. Là, le premier vrai épisode est sorti il y a une semaine. Je trouve que c'est un excellent complément de l'émission qu'on fait. Si jamais vous avez le temps d'avoir le temps de creuser un peu plus. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission ou pas.
Personnellement, non. Par contre, je peux confirmer le fait que c'est vrai qu'on survole les sujets sur certains. Donc si les gens veulent éventuellement un approfondissement sur certaines choses, autant aller là où il y en a.
Michael, tu as été jeté...
Non, moi non, pas du tout. Non, mais en fait... du coup, je vais peut-être aller l'écouter, quoi. Parce que je suis toujours à la recherche de podcasts et j'en connais pas tant que ça, en fait. Donc, c'est vrai j'ai noté, j'irai voir ça.
Bah, Patrick Béja, c'est mon dieu. C'est... donc voilà. Alors...
Petite statuette à son effigie.
Exactement. Je l'ai fait en pâte à modeler et tout. Donc, messieurs, sans autre forme de procès, je vous propose de voir un petit...
Il y a messieurs et mesdames.
Ouais. Oh, pardon, oui, pardon. C'est, alors, c'est de la faute de... je pense que vous le connaissez pas, mais c'est de la faute de Guillaume Vendée, à qui je voulais faire un clin d'œil, qui dit souvent ça dans son podcast. Désolé, Céline. Je m'excuse, je m'agenouille, je... Voilà. Donc, on va avoir des news, pas mal de news, parce qu'il y a eu la BlizzCon. Mais on parlera aussi d'autres choses et des choses qui fâchent. On va faire un point sur le Patreon, donc j'en dis pas plus, mais vous avez vu que j'ai lancé un Patreon, donc je ferai un petit point après. Les jeux du mois, donc on a deux jeux vidéo et deux jeux de plateau. On verra ça. Et dans Et quoi d'autre, je vais vous proposer un moyen métrage d'animation sublime. Donc, commençons tout de suite avec les news. Alors les news ce mois-ci, on va commencer avec de l'espoir. De l'espoir, il y a une semaine, s'est tenu un marathon gaming qui s'appelle le Bus de l'Espoir. Est-ce que vous avez entendu parler de cet événement ?
Non. Absolument pas.
Pas du tout, non.
Donc c'est sur la base d'un jeu, un des jeux les plus pourris qui existent. Ça s'appelle...
Tu le vends super bien.
Ça s'appelle Desert Bus. Desert Bus, c'est un jeu sur lequel tu dois conduire un bus pour rallier deux points des États-Unis.
Et au milieu, il y a un désert.
Voilà. Sauf que la durée du trajet, c'est 8 heures.
Ouais.
Et...
Ça fait un peu léger, 8 heures pour faire la côte est, côte ouest.
Ah non, mais après, tu peux faire le retour. Hein.
Ah, en 8 heures.
Avec 8 heures de plus. Le petit truc, c'est que comme c'est un désert, bah, il ne se passe pas grand-chose. Tu as un vent qui te fait dévier un peu de ta route, donc il faut que tu corriges ta trajectoire. Et à peu près, au bout de 5 heures de conduite, tu as un moustique qui vient s'écraser contre la vitre du bus.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est un des jeux les plus pourris de l'histoire du jeu vidéo. Et donc il y a un marathon qui a eu lieu pendant presque 3 jours, dans lequel des personnalités, des joueurs se sont relayés et apportaient des cadeaux, et les gens pouvaient faire des dons pour tenter de gagner les cadeaux pendant que ceux qui jouaient étaient interviewés et tout ça. Et les dons allaient au Secours Populaire. Donc c'est la deuxième édition et ils ont quand même récolté 27 000 euros.
Ouais, c'est pas mal, hein, pour le coup.
Ouais.
C'est une bonne chose.
Donc utiliser le jeu vidéo pour faire des choses comme ça, moi je suis pour.
Bah ouais, après tout, ça regroupe pas mal de monde, donc oui. Bon après, tant qu'à faire, essayer de prendre un jeu un peu plus, divertissant.
Bah oui, non, mais là, le divertissement, il vient de, en fait, des invités qui font le show en même temps qu'ils conduisent. Parce que si tu donnais une certaine somme d'argent, tu pouvais proposer des défis, ils jouaient sans ses lunettes ou ils jouaient sur les genoux d'une personne.
D'accord, oui, donc c'est ça. Sinon, un peu trop compliqué. Du coup.
Voilà. Oui, non, mais parce qu'il y a quand même des invités qui se sont... Bon, j'ai pas regardé un tout, hein. Mais il y a quand même des invités qui ont réussi à se planter dans le décor.
Quand même.
Donc voilà. Donc voilà, ça c'était une bonne initiative, ça fait plaisir. Dans les choses qui font un peu moins plaisir, qu'on devrait un peu moins voir, je ne sais pas si vous connaissez les Early Access sur Steam.
Non,
pas du tout, non.
C'est ces jeux qui sont proposés à l'achat. Quand ils sont pas encore finis.
Ah oui, d'accord.
C'est comme les bêtas de WoW et tout ça.
Voilà, sauf que les bêtas, tu les payes pas.
Oui.
Donc en fait, tu le payes en avant pour pouvoir jouer un jeu qui est pas fini.
Voilà, généralement, tu le payes. Enfin, le but, c'est de payer moins cher pour encourager les développeurs, pour les financer pendant qu'ils sont en train de peaufiner leur jeu.
D'accord.
Mais malheureusement, il y a énormément d'abus. Et il y a plein de jeux qui sont en early access et qui restent en early access tout le temps.
Ah ouais, d'accord.
Donc le jeu ne sort jamais et tu t'es bien fait couillonner. Il y a d'autres jeux qui sont plus chers en early access que en jeu une fois qu'il est fini.
C'est sympa, oui.
Ouais, donc voilà. Et donc Valve a décidé donc de durcir un peu le ton pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que apparemment il y a pas mal de joueurs qui se sont fait avoir. Et donc moi je vous conseillerais, pour éviter ce genre de déconvenue, c'est de regarder dans le flux d'informations Steam en fait s'il y a des mises à jour régulières. Ça vous donne un avis sur le sérieux de la boîte.
Oui,
donc voilà. News suivante, David Cage, c'est le monsieur qui était à la tête de Quantic Dream. Je suppose que vous ne connaissez pas les jeux Quantic Dream.
Oui, ouais. Désolé là.
Alors, non, mais les titres vont vous parler peut-être plus. Heavy Rain, Beyond Two Souls.
Oui.
Voilà.
Plus déjà.
Et donc, il a été interviewé il n'y a pas très longtemps sur l'avenir du jeu vidéo, parce que c'est une boîte qui fait des jeux vidéo pas comme on n'a pas trop l'habitude d'en voir. Et j'ai été content de voir qui disait ce qu'on disait en fait dans l'émission précédente sur l'avenir du jeu vidéo, à savoir que l'avenir du jeu vidéo pour David Cage, c'est les indépendants. Parce que les grosses boîtes de production, en fait, s'encroûtent dans ce qu'ils font, ne prennent plus de risques, parce que c'est trop risqué, il y a trop d'argent en jeu, et que le renouveau du jeu vidéo va arriver des indépendants. Donc, comme quoi, on ne dit pas forcément que des bêtises.
Non, c'est tant mieux. C'est rassurant aussi, quelque part, pour ceux qui nous écoutent.
voilà, et comme quoi, on choisit bien aussi nos invités.
Ouais.
On va passer à un sujet qui fâche beaucoup, Arnaud notamment. Parle-nous d'Assassin's Creed, Arnaud.
Moi, en fait, ça m'a un peu révolté. Donc, maintenant, c'est une polémique qui date un peu, mais j'étais en voiture tranquillement en train d'aller au boulot et j'ai mis France Info et j'entends Mélenchon dire que Assassin's Creed est. Et, alors, attends, du coup, je suis allé chercher ses paroles exactes. Donc, je cite Mélenchon. Assassin's Creed, c'est de la propagande contre le peuple. Le peuple, c'est des barbares, des sauvages sanguinaires, et celui qui est notre libérateur à un moment de la révolution, Robespierre, est présenté comme un monstre. On dénigre pour dénigrer ce qui nous rassemble, nous les Français. C'est une relecture de l'histoire en faveur des perdants pour discréditer la République une et indivisible. Alors, j'ai été un peu regardé. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai un peu halluciné, parce qu'on parle quand même d'un jeu vidéo à l'origine, et qui est du coup, par conséquence aussi, une fiction. J'ai assez halluciné, donc j'ai un peu regardé les différentes réactions qu'il y a pu avoir, surtout au niveau des médias. Le pire, c'est qu'il a persisté, il a signé. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, notamment le studio Ubisoft, a répondu qu'ils n'avaient aucune volonté de remplacer en gros les livres d'histoire, que c'était un divertissement uniquement basé, comme toi le font, sur la Révolution française. Et je trouve ça complètement, mais complètement déconnant, en fait. Enfin, je veux dire, pour reprendre Marianne, parce que je m'étais fait exactement la même réflexion, je vais vous citer ce que j'ai pu trouver chez Marianne. J'ai adoré la réponse. C'était la réflexion que je m'étais faite. C'était « Alors, peut-on s'amuser avec l'histoire en présenter une vision caricaturale ou clairement erronée à des fins divertissantes ?» Alors, si l'on juge que le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino n'a pas remplacé la vision que nous sommes faites de la Seconde Guerre mondiale sur les bancs de l'école, que les romans de Dan Brown n'ont pas effacé 2000 ans de chrétienté d'un revers de plume, et si, contrairement à ce qu'il annonçait en préface de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo n'a pas offert un roman historique, mais une fiction qui est par la suite devenue un classique, alors on peut affirmer que la réponse est oui. On peut s'amuser avec l'histoire, et si Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière veulent s'y essayer, l'équipe de Marianne.net est prête à fournir le matériel. J'adore cette réponse. Globalement, moi, je résume à... donc, ça veut dire que Da Vinci Code, c'est un livre d'histoire. Ça, désolé, mais j'étais pas au courant. Voilà, j'ai fini ma tirade.
Je pense qu'on ne peut être que d'accord avec toi.
Ah, j'étais, mais alors, voilà, je l'ai pris vraiment mal parce que, enfin, je veux dire, pour le coup, au moins on essaie de mettre en, il y a quand même un énorme boulot d'Ubisoft pour essayer de recréer un Paris de l'époque avec les costumes qui vont. Je pense que au contraire, sachant quand même que le jeu est interdit aux moins de 18 ans, que justement ça va pousser éventuellement ces jeunes de 18 et 19 ans et certainement pas inférieurs parce qu'ils n'auront pas le droit d'y jouer, à essayer de se renseigner par rapport à ce qu'ils ont vu en cours, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est assez récent pour eux, et le jeu en lui-même, est-ce que le jeu propose, et justement commencer à faire ce jeu de qu'est-ce qui est vrai dans le jeu, qu'est-ce qui ne l'est pas, au même titre que ce qu'on a pu voir sur le Da Vinci Code, quand il commence à jouer sur des choses qui sont exactes et d'autres qui ne le sont pas, et du coup, vu qu'il mélange le vrai et le faux, c'est un peu dur de s'y retrouver. Mais c'est là tout l'intérêt. C'est d'aller fouiller pour se renseigner, pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qui ne l'est pas. Et ça, finalement, permet d'accroître sa culture. Mmh. Et un truc pareil, mais je sais pas, moi ça me choque, je sais pas vous, mais je suis complètement halluciné par un truc pareil.
Moi je trouve hallucinant qu'un homme politique, il ait le temps de parler de jeux vidéo. Ils ont pas autre chose à faire, d'autres sujets.
Alors, je vais citer Mélenchon. pour faire son mea culpa, Mélenchon a dit « Le jeu vidéo est un art à part entière. » Bon, c'est un mea culpa qui vaut ce qu'il vaut, mais bah, pourquoi un homme politique pourrait pas jouer à un jeu vidéo au même titre qu'aller voir un film ?
Alors, pareil.
Non, c'est pas ce que je voulais forcément dire. Bien sûr qu'ils ont le temps et le droit de se divertir, là n'est pas la question, mais je pense qu'il y a d'autres sujets où ils peuvent s'exprimer plutôt qu'un jeu vidéo. C'est tout.
En fait, le truc, c'est que...
Oui, vas-y, Miguel.
Ouais, dans cette affaire-là, en fait, le problème, c'était que Mélenchon, il n'y a pas joué, en fait, à Assassin's Creed. Il ne sait même pas ce que c'est, en fait.
Voilà,
oui, c'est ça.
Lorsqu'il en a entendu parler, c'est un peu comme si, enfin, je ne sais pas, il y a un sujet que je ne connais pas, l'idée que je m'en fais de loin, avec tous les a priori que j'ai dessus, je me permette de donner un avis très pointu et définitif sur ça, alors que je n'y connais absolument rien. Bon, bah là, c'est exactement dans le même cas, quoi. Mm-hmm. Mais
c'est ça.
Moi, je pense que, franchement, il ne faut pas porter plus d'attention à ça. C'est vrai que dans le milieu du jeu vidéo, les fans, les gamers et tout, ils sont très au taquet, donc ils sautent sur tout ce qui bouge, quoi. Dès qu'il y a quelque chose de travers qui va pas, c'est ça y est, c'est terminé. Mais bon, voilà. Ouais, quoi. En fait, finalement, ça, c'est anecdotique. Il a critiqué le truc sans savoir de quoi il parle. Bon, ben voilà.
Ah oui, mais c'est surtout que c'est Mélenchon, et Mélenchon est un habitué de ce genre de choses. Ce qu'il veut faire, c'est le buzz, quoi. C'est tout.
Ouais, mais moi ce qui m'embête, c'est qu'en fait il a persisté et signé, c'est-à-dire qu'en fait une fois avoir fait ça, donc il y a Ubisoft qui a répondu, ils ont quand même remis sur le blog comme quoi oui non mais il fallait quand même aller voir, et donc il a quand même accusé directement l'historien et les personnes qui ont conçu le jeu en disant que il fallait peut-être aller revoir un petit peu parce que c'était quand même quand on voyait les personnes on pouvait quand même se poser des questions. Donc du coup forcément t'as tous les médias qui ont été regardés.
Ouais.
C'est quand même une accusation gratuite, en plus qui n'a aucun sens, il n'a aucun contenu. Marianne, Le Monde, tous les Figaro, enfin, genre, tous les journaux sont allés voir, et finalement, il n'y a rien. Il y a du vent. C'est juste de la critique pure, simple, gratuite. Moi, je suis à la place des éditeurs, je suis furax, quoi.
Je pense que Mélenchon, il a dû aller acheter le jeu en Day One, et comme il est dégoûté qu'il soit pas en 60 FPS, il a trouvé n'importe quoi pour démonter le truc, quoi. Je vois que ça, en fait. Hein. C'est la seule explication logique que je trouve.
Ah bah oui, mais alors, ça va pas avec ce que je veux dire après, parce que moi, il y a autre chose qui m'a choqué, c'est que du coup, il y a une chaîne de magasins qui, après les propos de Mélenchon, lui a écrit une jolie petite lettre en lui offrant une Xbox One avec Assassin's Creed.
Ouais.
Alors, si une chaîne de magasins m'écoute, moi je trouve que la PS4 c'est de la merde. Et notamment Assassin's Creed. Voilà, à qui veut bien m'entendre. juste pour répondre à ce que tu disais, Arnaud, aussi, et pour faire encore un petit peu mon troll, Tu disais la différence entre la fiction, la réalité, pour recréer le pari. Moi, je sais te dire comment différencier les deux. Dans le pari de la Révolution, il n'y avait pas de bug.
Non, mais il y a aussi, oui, certes. En plus, bon, c'est parce que j'ai lu aussi l'interview de l'éditeur qui disait que, de toute façon, il y a aussi pas mal d'anachronismes. Typiquement, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge qui n'existait pas à l'époque. Ouais. La Marseillaise qui n'existait pas à l'époque. Ça allait venir quelques années après. Enfin, toutes les choses. Mais, genre, ils les assument. C'est fait pour parce que oui, c'est quand même des symboles qui arrivent à reconstruire, qui permettent de contextualiser la chose. C'est-à-dire que si tu mets un drapeau que personne ne connaît, c'est peut-être un peu bloqué, quoi. Donc, enfin voilà, c'est okay. Y a des différences, c'est vrai, et c'est ouais. Ça tout l'intérêt, c'est que tu peux commencer à les fouiller. Tiens, c'est bizarre, c'est pas ça. Tu peux même les critiquer, mais tu peux certainement pas aller commencer à poser sur autre chose, quoi.
Ou tu peux tout simplement jouer sans du tout t'intéresser de savoir si effectivement la toile de fond est vraie, pas vraie, ou rien du tout.
Oui, mais à ce moment-là, faut veiller à pas la ramener après et puis dire des conneries.
Tout à fait.
voilà, c'était après, juste.
Ok.
Vas-y. Je connais pas l'histoire d'Assassin's Creed, mais il y a pas une histoire. Enfin, j'ai pas joué aux différents jeux, mais il y a pas une histoire de qu'en fait c'est pas la réalité, non.
C'est une réalité plus ou moins alternée, c'est-à-dire que alternative. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, le postulat, c'est que c'est un gars qui revient, qui de nos jours, grâce à une machine et un code génétique, arrive à prendre finalement et à rejouer dans le corps
ses ancêtres.
Il y a je sais pas combien d'années. Donc à partir de là, bon.
Donc on peut tout accepter, quoi.
Oui, voilà.
C'est la science-fiction, enfin. Ouais, voilà. Ça, j'en viens à un roman. Oui, bah dans ces cas-là, tu prends n'importe quel roman et je cite bien un roman comme livre d'histoire. Enfin, c'est. Bref. C'était mon petit coup de gueule. J'en ai pas souvent, mais celui-là. Voilà.
Enfin, oui, un petit gros là, un petit gros.
Toute la journée, tout le soir et toute la journée d'après, je confirme.
Oh ma pauvre, t'as dû souffrir.
Ah oui. Hein.
Alors, on a déjà été long. Vite, alors très vite. Un petit aperçu de Evolve. Alors, Evolve, c'est ce jeu 4 contre 1 où on joue 4 chasseurs contre un gros monstre. Au cours du mois de novembre, il y a eu une Big Alpha. C'est-à-dire qu'il y a eu un très gros week-end où des gens pouvaient avoir accès. Ils ont envoyé des clés alpha à beaucoup de gens et 4 clés alpha à beaucoup de gens. Donc déjà, je remercie Art of Gaming de m'avoir filé une clé. je leur ai gentiment demandé, enfin, j'ai gentiment demandé à quelqu'un qui leur est lié et donc j'ai dit que je passerai le merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont joué parmi vous?
Non.
Pas du tout, non.
Non. Alors, juste pour mon avis, j'ai pas énormément joué, hein. J'ai pas joué toutes les classes, mais j'ai joué le monstre. Contrairement à ce que je croyais, c'est très très difficile de jouer le monstre et de gagner. T'es vraiment constamment sous pression. Alors, quand t'es le monstre, tu commences à un stade 1, il faut que t'ailles bouffer des créatures et pour évoluer en stade 2, puis en stade 3. Et en stade 3, tu peux atteindre ton but sur la map, c'est-à-dire détruire un générateur ou de tuer tous les chasseurs. Hein. C'est vraiment, vraiment chaud, chaud, chaud. Et quand on est du côté des chasseurs, ça demande une vraie coordination. Tu peux pas partir dans ton coin et dire oh allez c'est bon je vais le pister les mecs j'ai pas besoin de vous. Non, chacun a ses aptitudes et c'est vraiment bien foutu, c'est nerveux. Les parties durent pas plus de 10 minutes. T'as un timer qui les limite à 15 minutes déjà, mais je suis jamais arrivé au bout du timer. Et non, vraiment chouette. Et ça nous, on peut faire une partie comme ça en pick-up. On n'a pas besoin de connaître les gens. C'est vraiment chouette.
Donc, j'imagine que c'est quand même plus simple de coordonner si tu connais les gens.
Oui, mais tu vois, là, j'avais même pas de micro, j'avais rien, et on arrivait à se coordonner juste en voyant ce que chacun faisait.
Il y a quand même un chat pour s'échanger.
Oui. D'accord. Mais le chat, tu vois, enfin, le chat écrit, le jeu est tellement nerveux que t'as pas le temps.
D'accord.
Voilà.
C'est uniquement du multiplayer, en fait.
Ouais. C'est uniquement du deathmatch. Après, je sais pas s'il y a d'autres modes de jeu, mais là, sur la Big Alpha, c'était uniquement du deathmatch. Et pareil, t'as un système de leveling pour débloquer des nouveaux monstres, des nouvelles des nouveaux personnages dans les classes avec les aptitudes et tout. Les tutoriels sont super bien faits. Quand là, c'est la première fois que tu joues une classe, et ben du coup, on te dit en intro ce que tu peux faire avec et tout. Non, ouais. Vraiment très bien à recommander. Pourtant, je suis pas fan hein, de tout ce qui est FPS, deathmatch et tout ça. Mais ouais. Là, c'est vraiment chouette. C'est
et les maps ont l'air assez petites, non?
Oui et non. En fait, je pense que si tu passes un bon moment dessus, les maps, ouais, tu vas vite les connaître par cœur. Ouais. Mais je pense pas que ce soit nécessairement un point négatif. Ouais. Parce que du coup, moi, comme je connaissais pas les maps, je savais pas où je pouvais me planquer. Je savais pas et j'avais besoin de me planquer.
Ouais.
Pour pouvoir grossir, pour pouvoir donc. À voir sur le long terme, c'est ce que je me suis dit hein. Je me suis dit bon ok, c'est peut-être amusant une semaine, deux semaines, à voir sur le long terme, parce que le système de leveling pour débloquer des trucs est aussi sympa et pas si rapide que ça.
Ouais,
enfin à voir, mais au moins à tester à un moment ou à un autre si vous pouvez.
Donc là j'aime beaucoup le format 10 minutes, puisque pour revenir quand même sur l'émission, 10 minutes c'est quand même pratique pour pouvoir jouer vite fait.
Et tu trouves des gens de ton niveau, de enfin ça se fait rapidement, ça se fait simplement, même sur la classe que tu veux jouer, tu définis ton ordre de préférence et généralement si tu joues pas ce que tu veux jouer, tu joues sur ce que t'aimes hein, juste en dessous. Enfin non, c'est vraiment chouette.
Et c'est disponible quand?
C'est disponible. C'est une bonne question. je le mettrai sur les notes de l'émission. Hein?
D'accord.
Je suis fatigué, je le rappelle. très vite, une petite info. La sortie de Game of Thrones, le jeu de Telltale Game, le 2 décembre, c'est-à-dire le lendemain de la sortie du podcast. Est-ce que ça vous intéresse?
Oui.
Ben, moi, je sais pas. Je reste prudent. Autant j'adore les bouquins, j'aime bien la série, autant j'avais regardé déjà un peu un jeu de plateau, Game of Thrones, que je trouvais... Enfin, j'y ai pas joué, mais la présentation ne m'avait pas spécialement convaincu. Peut-être à tort, hein. Je sais pas, il faut voir ce que ça peut faire.
Si, si, moi je veux bien aller taper du Lannister, hein, y a pas de problème.
Michael ?
Non, moi je suis pas du tout fan de Game of Thrones, j'ai regardé la première saison, mais j'ai pas réussi à accrocher au début de la deuxième, donc j'ai lâché l'affaire. Donc.
D'accord.
Voilà.
Alors, ce que je trouve un peu dommageable, c'est que sur les premières images là qu'on a vues, en fait, ils reprennent l'esthétique, enfin le physique des acteurs de la série et pas comme ils sont vraiment décrits dans les bouquins.
Ouais, ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de différences quand même.
Tyrion dans le bouquin, c'est vraiment un abo pas beau. Hein.
Oui, oui. Alors, je vais pas critiquer l'acteur. Il le rend pas forcément très joli non plus.
Non, mais quand il se fait la balafre, là, dans le bouquin, c'est pas une petite balafre. Hein.
Oui, oui, je suis d'accord. Mais enfin, pour le coup, ça me choque moins, parce qu'au final, ça parle peut-être plus aux gens. Les
oui,
gens
bah ont, oui, oui, oui. Après, c'est à voir. Hein.
Différent, donc, au moins, là, ça ancre un personnage, c'est pas forcément... Ouais.
Telltale a fait déjà un super boulot sur The Walking Dead, donc... Enfin, voilà. Moi, perso, je vais attendre un petit peu.
Oui, je vais attendre ce que ça donne aussi.
Alors, on va essayer de faire vite sur la BlizzCon. On va essayer, parce qu'il y a eu plein de choses. un petit coup de gueule d'abord sur la grande annonce, c'est Overwatch. Donc, Overwatch, le nouveau FPS donc, de Blizzard. Un FPS, alors, c'est un FPS, c'est un genre FPS. Mais c'est un matchmaking d'équipe 6 contre 6 où on incarne chacun un personnage avec une classe. Donc défense, attaque, soutien, et il y en a une quatrième, je ne sais plus. Avec très peu de capacités, il y a 3 ou 4 capacités par personnage, des grosses capacités qui se rechargent plus lentement, des plus petites qui, un peu plus vite, et donc ça a l'air d'être un jeu très nerveux, il va y avoir 2 points négatifs, il y en a un, c'est moi qui vais le dire, je suis pas fan de l'esthétique. C'est un peu trop coloré, un peu trop lisse, un peu trop... C'est pas ce que j'aime chez Blizzard.
J'aurais bien des trucs à dire moi aussi là-dessus.
Justement. Et le deuxième point, c'est toi qui vas le dire. Parce que je t'ai vu le dire. Enfin, bah, on en a parlé sur Facebook.
Ouais, donc à propos de l'esthétique, donc.
Voilà.
Ouais, bah en fait, c'est vrai que les personnages, en fait, bon, c'est un peu tous des stéréotypes de différents personnages qui sont piochés à droite à gauche, et c'est très très inspiré de pas mal de trucs, et on reconnaît directement les inspirations, et en fait, bah, je sais pas, moi je trouve que c'est pas très. Bah, ça manque d'originalité, c'est clair. Et puis surtout, bah, quand on connaît les inspirations, c'est un peu dérangeant, quoi. Donc il y a pas mal de persos. Voilà, je vois, j'ai une image sous les yeux avec tous les personnages du truc. Et c'est vrai qu'on peut tous les assimiler à quelqu'un qu'on connaît, qu'on connaît déjà, quoi. Il y a une nana en armure avec des ailes, elle ressemble vachement à l'héroïne de PN03 de Capcom. Il y a un singe en armure qui ressemble exactement au personnage du jeu AT-43 de Rackham. Il y a un autre mec, un assassin, qui est un peu un mélange d'Assassin's Creed, et puis aussi d'autres personnages de la marque Rackham. Il y a un nain en armure rouge qui ressemble énormément à un personnage de Games Workshop, en édition limitée qu'ils avaient sorti pour les abonnés de leur magazine White Dwarf. Il y a un autre robot qui ressemble aussi à une des factions de Warhammer 40 000 qui s'appelle les Tau. Donc Warhammer 40 000, Blizzard ils aiment bien, hein. C'est quand même leur source d'inspiration principale pour tout ce qui est Warcraft. Et puis voilà, quoi, le bonhomme en bleu, son armure ressemble énormément à celle de Samus. Il y a le gars, l'espèce de Ronin qui ressemble beaucoup à Mitsurugi de Excalibur. Enfin bon,
j'ai pensé direct
on voit qu'ils ont vraiment pris, ils ont pris un peu vraiment partout, ouais. dans tout ce qu'ils connaissaient. Et forcément, ça s'adresse à des gens qui ont cette culture et à qui ça saute aux yeux. Donc
ouais.
C'est un peu bizarre.
Ouais.
C'est un peu blizzard.
Joli jeu de mots.
Ouais, j'ai eu le même sentiment mitigé. Je ne doute pas une seconde du fun qu'il va y avoir dedans. Mais l'emballage... ouais. Bon.
Et puis en plus, avec ça, par-dessus, ils ont rajouté un rendu un peu à la Pixar et tout. Enfin, c'est vraiment
bizarre.
Moi,
ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Mais bon,
ouais,
après, c'est les couleurs, quoi.
Ouais, bien sûr. Et en plus, je pense que les fans de Pixar, je sais pas s'ils vont être vraiment réceptifs à ce genre de truc, quoi. C'est vraiment une esthétique très console, en plus.
Ouais.
Ce qu'ils nous
bah,
ont fait,
après,
là,
ce que j'ai entendu à droite à gauche, les gens ont l'air plutôt emballés. Hein.
Ouais, bon, bah, tant mieux. Hein.
Ouais,
tant
ouais. Pour eux. donc Overwatch, visiblement, ça va arriver assez vite puisque la bêta est prévue en 2015, la bêta fermée. Hearthstone, donc on est toujours chez Blizzard. Hearthstone va voir sa première extension sortir très rapidement. Ça s'appelle Gnomes and Goblins et ça va sortir ce mois-ci, au mois de décembre, avec des nouvelles mécaniques de jeu, des nouvelles créatures, les mechas. Et avec tout cet aspect gnome et gobelin, avec les inventions qui marchent une fois sur deux et qui font des trucs qu'on contrôle pas forcément. Donc, je mettrai le lien. Allez voir les nouvelles cartes, vous verrez, c'est assez rigolo et ça promet des parties surprenantes. Soit dit en passant, à la BlizzCon, l'arène dédiée à Hearthstone, c'était la reconstitution d'une taverne de Warcraft. C'était formidable, c'était juste très joli à voir.
Ouais, il faudra que j'aille voir parce que j'ai pas pu voir quoi que ce soit de la BlizzCon.
Ouais.
C'est vrai que ça peut être sympa s'ils ont fait un petit décor.
Ah ouais, c'était j'avais envie d'y être. petite info aussi, la version Android sur tablette devrait voir le jour aussi début décembre de Hearthstone.
D'accord.
Heroes of the Storm, donc c'est ce MOBA de Blizzard, toujours. La bêta fermée va arriver bientôt, début 2015. J'ai jamais joué à un MOBA. Je crois que je vais le tester forcément. Je sais pas si ce que vous en dites, vous.
Idem, jamais testé.
Pareil.
Bon, alors on verra.
Voilà, on est vraiment des pros, quoi.
Ouais, ouais. Et la dernière info sur la BlizzCon, c'est Legacy of the Void, la troisième et dernière extension de StarCraft 2. Avec ceci de particulier, c'est que le jeu sera standalone. On va pouvoir l'acheter sans avoir acheté les deux autres. Ce qui est un peu ballot, mais pourquoi pas. Et Blizzard nous promet qu'on aura toutes les réponses à nos questions. On saura tout de tout.
Eh ben.
Donc voilà. Après, le multi, personnellement, je m'en fous parce que je me fais démonter au bout de 30 secondes. Donc moi, c'est juste le jeu solo qui m'intéresse. Voilà. Et je finis les news, ces interminables news, avec un petit coup de pouce sur un petit jeu mobile qui m'a été présenté sur Twitter. Ça s'appelle Highlight, c'est sur iOS. Et en fait, vous connaissez Simon, le jeu Simon ?
Ouais.
C'est ce jeu avec quatre touches de couleur où ça fait une note de musique et il faut répéter le...
Oui, d'accord, ça y est. Oui. Okay.
Voilà.
En fait, moi, je connais très bien Highlight. Hein. J'y joue depuis qu'il est sorti.
Ah, bon, bah, très bien.
En fait, quand je l'ai vu sur le programme, je pensais que tu l'avais vu sur mon blog, en fait, parce que j'en ai parlé. Mais,
c'est ah, ben, bah, j'ai même pas fait gaffe, écoute.
Ouais, c'est rigolo.
Ouais. Enfin,
deux biais différents, tu vois.
Donc, moi j'avais promis d'en parler parce que bah, c'est un jeu du coup que j'ai bien aimé. Donc c'est le même principe donc que ces jeux de Simon, sauf que là c'est pas quatre touches avec des notes. Enfin au début c'est quatre touches avec des notes. Et puis ça se complexifie et puis ça devient 6. Et puis il faut pas seulement tapoter, après il faut glisser son doigt et ça devient très très vite compliqué.
Assez vite, ouais, c'est vrai.
Ouais.
Que...
Et je trouve ça chouette pour développer la mémoire immédiate avec ses enfants, etc. L'ennui, c'est que j'ai une mémoire immédiate nulle.
Ça se travaille normalement.
Oui, ça. Alors, j'ai peiné.
Moi, justement, du coup, l'avis de Michael, qui apparemment y a beaucoup joué. Alors, ouais. Du coup, ça dit quoi ?
Bah non, moi je le trouve très bien. En fait, déjà, j'ai été vachement étonné par le côté très pro du jeu, vu que c'est un jeu gratuit. Tu vois, il a graphiquement, au niveau de l'ambiance et tout, il est vraiment vraiment bien foutu. Et puis au niveau du jeu en lui-même, le système, de toute façon, c'est un truc, c'est super simple, donc ça fonctionne très bien sur ce genre de plateforme. Et puis par contre, c'est vrai qu'il devient très très vite extrêmement compliqué, quoi. C'est dès le deuxième niveau, ça devient vraiment difficile. Mais bon, après, c'est bien hein, que ça soit dur. C'est,
oui, mais
ça change des autres jeux mobiles, quoi.
Mais j'ai peiné pour arriver au deuxième monde.
Waouh, le deuxième monde, ça va encore, quoi.
Mais oui, mais...
Mais c'est vrai que...
Mais t'imagines pas à quel point je me sens nul.
Non, mais c'est vrai qu'il est difficile. Hein. C'est vrai que même dans le premier monde, où d'habitude on se balade dans les autres jeux, c'est vraiment... Là, mais celui-là, il commence à avoir des difficultés. Hein.
Moi, j'ai une petite question pour très simple. C'est est-ce que, par exemple, on peut faire participer les enfants? Est-ce que c'est abordable pour eux?
Vas-y, Mickaël, parce que moi,
début,
je suis nul.
Au début, il est très facile. Au début, il est très facile, ils peuvent sans problème commenter le jeu. C'est un simple Simon, quoi. Et en fait, après, de toute façon, les enfants, c'est des éponges. Hein, donc, ils essayent deux, trois fois. Et s'ils loupent, la quatrième fois, ils vont y arriver, quoi. Donc, justement, c'est intéressant de passer aux enfants. Parce que là...
Nous, en fait.
T'as dit quoi ?
Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible qu'ils s'adaptent plus rapidement que nous. Ouais. Non, mais surtout qu'en plus, nous, on est des joueurs, donc on est habitués avec les jeux modernes à la progression rapide et tout, quoi. Mais les enfants, ça, ils en ont rien à foutre, en fait. Hein. Ce qui les intéresse, c'est de s'amuser, quoi. Donc, ils s'accrochent, en fait.
D'accord.
Ça les dérange pas de refaire 15 fois le même niveau, c'est pas grave, quoi.
Donc voilà, essayez, c'est gratuit, c'est gratuit, il n'y a pas de pub.
C'est incroyable.
C'est zen, c'est bien développé. Chapeau, les gars. Chapeau.
On peut trouver ça sur Android aussi.
Moi j'ai joué sur Android. Moi.
Ouais, donc Android et iOS.
Ah, ça peut être un bon jeu tablette, quoi.
Ouais, moi j'y joue sur tablette.
Et la boîte qui fait ça, c'est Infinite Square.
Voilà. Merci.
Voilà.
Donc voilà. Eh bien, c'est tout pour ces news de presque 40 minutes. je vais très vite faire un point sur le Patreon et expliquer un peu aux gens ce que c'est. Donc, tout, au début du mois de novembre, j'ai lancé un Patreon. Donc, le Patreon, c'est le moyen pour vous, auditeurs, de nous soutenir pour, sur ce qu'on fait. C'est une sorte de financement participatif, sauf que là, c'est sur la durée. C'est comme si vous payiez, en fait, un abonnement, genre à un magazine qui sort, on va dire, toutes les deux semaines. Enfin, bah non, là, tous les mois. Et si vous pensez que bah, ce podcast, ce qu'on fait, ça vaut quelque chose, si ça vous apporte des informations, si ça vous est utile, si ça vous fait rire, si vous trouvez que on est ridicule mais que ça vous apporte de la bonne humeur et que c'est votre petit plaisir mensuel.
On est ridicule. Peut-être un peu, mais bon, c'est pas grave.
Donc voilà, vous pouvez nous soutenir comme ça, parce que produire un podcast, vous le savez pas forcément, mais ça coûte de l'argent. Il y a les hébergements, il y a les différents services que je peux utiliser pour assurer un service de qualité, d'une certaine qualité. Et au moins, ce que j'aimerais, c'est ne plus perdre d'argent à faire le podcast. Et donc à l'heure actuelle, on est à 9 patriotes, donc 9 personnes qui vont nous donner de l'argent à partir du mois de janvier, parce que c'est à partir du mois de janvier que ça va commencer à être débité. Donc on est à 9 personnes qui nous donnent en tout 19$. Donc je vais quand même remercier ces personnes-là maintenant, mais c'est en dehors des récompenses qu'on peut avoir, parce que voilà. Donc il y a Michael Paquet qui était venu dans l'émission précédente, Patrick Béja, mon Dieu, David Zislin, El Pouillou, Bertrand Châtaigneau qui est notre soutien de la première heure, Olivier Faquet, Baptiste Boilet, Guillaume Bordès et Luciane, qui vont être une source de soutien et je les remercie de tout mon cœur. Dans ces personnes-là, il y a il y a une personne un peu spéciale qui va rendre le podcast un peu spécial, parce que je vais pouvoir dire à partir du mois de janvier que je dois être un des seuls podcasts financés, une partie financée par sa grand-mère.
Merci mamie.
Tu pourras lui la remercier de notre part.
D'accord. De toute façon, elle écoute le podcast. Hein.
Est-ce qu'elle comprend tout ?
Non, mais elle écoute.
Elle est drôlement sympa.
Ouais. C'est super sympa. Oui.
Tous les mois, elle me dit ce qu'elle en pense et tout. Donc merci.
C'était super bien.
Donc voilà. Donc si vous voulez nous soutenir, si vous pensez que ça vaut le coup. Allez sur la page Patreon du podcast, donc c'est patreon.com, patreon.com/papa-à-quoi-tu-joues, tout attaché. Et là, vous vous inscrivez et vous donnez ce que vous voulez. Vous donnez 1, 2, 3, 4 dollars. Vous pouvez aller jusqu'à 27 000$ si vous voulez.
Ça apporte un peu la gourmandise.
Ouais. Mais sur la page du Patreon, je vous explique en fait ce que je vais faire de cet argent par palier. En fait, il y a un premier palier à 25$, on y est presque, un à 88, un à 138. Donc j'ai fait des calculs savants pour savoir ce que je peux acheter, ce que je peux améliorer avec certaines sommes d'argent. Donc voilà, allez sur la page Patreon si vous voulez nous soutenir, et d'avance, pour ceux qui le feront, un grand merci. Si vous ne pouvez pas nous soutenir, si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas, parlez du podcast autour de vous, c'est déjà quelque chose de très bien, parce que du coup, ça fait plus de personnes touchées, et ça peut nous aider aussi. Donc voilà. On va passer au jeu du mois.
Mentirai plus jamais, libéré, délivré.
Alors, les jeux du mois, on va commencer par Michael, qui va nous parler du peut-être futur jeu préféré d'Arnaud.
Pas faux.
Vas-y, Michael.
Donc ok, bah moi je vais vous parler donc de Disney Infinity. Donc on en avait déjà un peu parlé à l'émission précédente. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion d'en faire un article sur mon blog. Donc j'ai eu le temps de bien tester le nouvel opus 2.0 qui est sorti dernièrement. Et donc c'est vrai que c'est un des jeux qui se marie le plus avec la vie parentale, puisque ça permet d'intéresser beaucoup les enfants, on va dire, par le côté figurine et l'univers qu'il aborde, et aussi les parents, parce que ça reste quand même un jeu et que c'est quand même assez cool, surtout que le 2.0 est très axé univers Marvel, donc ça parle pas mal aux parents trentenaires, quoi.
C'est ma première question, c'est qu'en fait la différence notable entre le normal et le 2.0, c'est que le premier c'est en gros c'est les figurines Disney animées qu'on a l'habitude de voir, et le 2.0 voilà. C'est plus Marvel, c'est ça?
Voilà, en fait pour schématiser un peu le truc, les galettes Disney Infinity c'est un peu comme un moteur de jeu. Et on peut acheter à côté ce qu'ils appellent des packs aventures, donc c'est une espèce de gemme transparente qu'on pose sur la plateforme, et qui sont en fait des jeux en fait Disney qui utilisent le moteur Disney Infinity. Donc le premier opus, effectivement, les jeux qui étaient proposés, c'était de mémoire, c'était il y avait Toy Story, il y avait Lone Ranger, il y avait Cars, il y avait Monster Academy. Et les Indestructibles, et puis quoi d'autre, je sais plus quel était le dernier. Ah oui, si, c'est les Pirates des Caraïbes. Et donc c'était très axé Disney. Enfin, bon, il y avait quand même des jeux comme le Pirates des Caraïbes qui n'étaient pas tirés de licence de dessin animé. Mais là, le nouveau, pour les premiers packs aventures qui sont sortis avec le jeu et toute la com qui a été faite dessus, c'est exclusivement les univers Marvel. Donc on a les Avengers, Spider-Man et les Gardiens de la Galaxie.
D'accord. Alors attends, juste pour que je comprenne bien, c'est qu'en fait quand t'achètes une figurine, en fait t'achètes un jeu avec.
En fait, ouais, les figurines, bon, le jeu est divisé, Disney Infinity, c'est divisé en deux grandes parties. T'as un côté qui s'appelle la Toy Box, qui permet en fait de jouer avec toutes les figurines, quelles qu'elles soient. Donc c'est une espèce de grand, comment dire, c'est un éditeur de niveau, et on peut créer un peu les jeux qu'on veut. C'est une espèce de grand coffre à jouer, et d'accord, là on peut jouer avec toutes les figurines, quelles qu'elles soient, quel que soit le monde duquel elles proviennent. Et à côté de ça, t'as la possibilité de jouer à des aventures, donc qui sont des jeux en fait à part entière, et qui sont disponibles effectivement à la vente. Donc on te vend des packs aventures, donc dedans t'as le gemme qui permet de débloquer l'aventure, c'est des DLC physiques en fait. Et deux figurines de cet univers, en fait, parce que tu peux jouer dans un univers qu'avec les personnages de cet univers.
Ah, d'accord. Donc, par exemple, dans une ville dans New York de Spider-Man, tu peux pas rajouter Donald, pas.
Non, déjà le New York de Spider-Man, tu ne l'auras que si tu as la gemme Spider-Man. Donc, c'est en fait le DLC du jeu. Et cette gemme n'est vendue qu'avec des figurines de Spider-Man. Donc c'est un blister avec deux figurines et une gemme, parce qu'en fait, quand tu veux jouer à deux, t'es obligé d'avoir deux figurines du même univers. Mm-hmm. Et donc, en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, t'auras toujours une gemme et deux figurines de ce jeu, quoi. Donc,
D'accord, en fait, je pensais que tu pouvais éventuellement mettre une gemme et une autre figurine, comme ça tu pouvais faire des croisements assez rigolos.
Non. Alors en fait, dans Disney Infinity 2.0, ils ont prévu quelques cas comme ça, du style dans le jeu de... des Gardiens de la Galaxie, tu peux jouer avec Iron Man, mais j'en ai parlé avec un pote qui s'y connaît, parce que moi je suis pas très calé en comics, et en fait il m'a dit oui, c'est tout à fait normal, Iron Man et les Gardiens de la Galaxie, c'est deux trucs qui sont liés. Bon, ok, je savais pas, mais voilà.
Oui, moi non plus.
J'ai appris ça, donc apparemment il y a une histoire comme quoi le méchant est commun aux deux mondes.
D'accord.
Ouais.
Ok.
Mais sinon, oui, effectivement, tu pourras pas jouer.
C'est un DLC physique. En fait, c'est pas juste une figurine qu'on vient mettre, ajouter comme un gadget dans un jeu préexistant. T'ajoutes quand même finalement un jeu, des maps, et une histoire.
Ouais, tout à fait.
Et le temps de jeu par pack, à peu près?
C'est pas très long, hein. C'est des jeux qui prennent, je sais pas, mais enfin, après, c'est toujours la même histoire. Ça dépend si on le fait en ligne droite ou si on fait tous les trucs qu'il y a dans tous les champs.
Alors, je vais préciser justement la question, c'est combien de temps ça prend avec des enfants?
Non, mais c'est un peu impossible à faire du début à la fin d'une partie, hein. C'est 3-4 heures, donc c'est des sauvegardes, etc. Mais D'accord. Mais bon, ça pose pas de problème, hein. On sauvegarde et puis on reprend au même endroit après.
Oui, voilà. Non, mais c'était juste pour avoir une idée, est-ce que c'est vraiment un truc qui est fini dans l'après-midi avec les enfants, ou est-ce que ça peut prendre plusieurs fois, occuper plusieurs fois, en fait?
Non, ça prend quand même plusieurs fois, mais bon, après, c'est... Enfin, c'est tellement cool, en fait, de refaire le jeu avec des personnages différents et tout, que... Enfin, là, nous, par exemple, on a acheté dernièrement tous les personnages du... Parce que quand on achète, on a eu le pack de... des Gardiens de la Galaxie, donc avec deux personnages, il y a Star-Lord et puis Gamora dedans. Il y a cinq personnages en tout, donc on a été racheter les trois autres, elles étaient toutes contentes et tout, après on a refait les jeux avec des personnages différents, donc c'est vraiment... C'est cool, quoi. C'est,
ouais, et puis après, ça fait des belles figurines à mettre dans des vitrines.
Ah ouais, elles sont franchement classe, quoi. Après, dans l'offre DLC, dans l'offre NFC qui est actuellement disponible, il y a les Skylanders là, qui valent ce qu'ils valent, quoi. Moi, je trouve pas ça extraordinaire. Je suis très... Je suis très axé figurine, quoi. Donc je connais un peu, je sais comment c'est fabriqué et tout. Donc les Skylanders, c'est clairement ce qu'on trouve de moins qualitatif, on va dire, dans l'offre disponible. Après les Amiibo, là j'en ai acheté un la semaine dernière parce qu'ils sont sortis pour voir un peu la gueule que ça. J'ai pris la Princesse Peach, hein. Elle est assez classe, mais elle reste quand même un cran en dessous de la qualité de fabrication des Disney Infinity. Et puis Disney Infinity, c'est clairement les meilleurs, quoi.
D'accord.
Et est-ce que tu peux finir le jeu sans avoir toutes les figurines? T'es pas obligé d'acheter toutes les figurines pour finir ton jeu.
En fait, quand on achète le jeu est disponible en deux starters, on va dire. On a le starter Marvel.
Ouais.
Donc, dedans il y a un pack aventure, c'est celui des Avengers. Donc il y a des figurines Avengers et le pack aventure Avengers. Donc là on achète ça, c'est bon, on a le jeu Avengers, on peut le terminer sans problème. Et il y a un autre starter qui est plus orienté Disney. Donc dedans, il y a pas de pack aventure. Il y a uniquement la toy box. Et il y a dedans, il y a Merida et puis je sais plus qui. Je crois que c'est non, c'est pas Clochette, c'est Merida et puis Stitch. Voilà, Stitch de Lilo et Stitch. Et donc là, quand on achète. Ouais, pour le 2.0, ouais. Donc en fait, parce que le 2.0, ils ont dû se rendre compte que Marvel, c'était bien sympa, mais pour les enfants, ça les attirait peut-être moins que les trucs Disney. Donc ils ont sorti un autre starter, au cas où, pour les gens qui ne sont pas du tout intéressés par Marvel, où il y a donc deux personnages Disney dedans, mais par contre, il n'y a pas d'aventure, quoi. C'est que la Toy Box. Donc ils ont essayé de pallier à ce problème en mettant des disques, en fait, parce qu'il y a... En fait, ils ont mis du NFC dans plusieurs éléments. On a les gemmes qui permettent de débloquer les aventures, les figurines, donc qui sont les figurines des personnages dans le jeu, et il y a un autre truc, c'est les disques, en fait, qui permettent d'avoir des bonus dans dans la toy box, donc des éléments pour construire ses propres niveaux. Et aussi, là, c'est une nouveauté du 2.0, ça n'était pas dans le premier, c'est des disques qui permettent de débloquer des mini-jeux dans la toy box. Donc c'est des jeux vraiment très basiques, hein, c'est des tower defense, en fait, dans les deux cas. Donc quand on achète le pack, le starter avec Stitch et Merida, on a les tower defense de Rebelle et de Stitch, mais bon, voilà, quoi, ça permet de faire passer un peu la pilule du jeu où il n'y a pas de jeu, en fait, quoi. C'est juste une toy box.
Okay.
Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les toy box,
c'est bien 2.0 ou pas, c'est parce que de mémoire, et tu peux confirmer, c'est que le premier est disponible que sur Wii U, et alors que le 2.0 est disponible sur les autres consoles.
Alors attends, le premier. Il est disponible sur... Non, le premier, il est disponible sur PS3, Xbox, Wii U, Wii.
Alors, c'est parce que je l'ai jamais trouvé, c'est pour ça...
En fait, c'est le... Si, le premier, il est disponible partout. Hein. C'est juste... En fait, le premier était disponible sur Wii, alors que le deuxième ne l'est pas. Et le deuxième est disponible sur PS4 et Xbox One, alors que le premier ne l'est pas. Parce qu'en fait, le deuxième, c'est un jeu de la génération actuelle, et le précédent, c'était celui de la génération précédente, quoi.
D'accord, ok. Voilà.
Comme la Wii U, elle est sur les deux générations, la Wii U, elle a eu les deux jeux, quoi. Mais par contre, par contre, ouais, c'est. Mais si, le 2.0, il est dispo aussi sur 360 et sur
oui, PS3. Le 2.0, c'était le tout premier. Le tout premier était de la génération d'avant, donc c'est ça, en fait.
Ouais, mais il était dispo sur PS3 et Xbox 360. Mais pas, évidemment, pas PS4 et Xbox One.
Ok.
Et ouais, donc ce que je voulais rajouter aussi, c'est que pour les gens qui souhaiteraient avoir le pack Disney, là, le pack Toy Box, en fait, le Starter Toy Box, c'est que les Toy Box que les joueurs font, elles sont ils peuvent les uploader, en fait, sur les serveurs de Disney, et n'importe qui peut les télécharger gratuitement. Donc en fait, il y a des gars qui sont vraiment hyper fans, qui font des très très belles Toy Box, et qu'on peut donc en fait télécharger gratuitement nous chez nous. Donc en fait, bon, là par exemple, quand on a eu le 2.0, mes filles m'ont réclamé absolument d'avoir une toy box de la fée Clochette. Donc c'est le premier truc qu'on a fait en fait. On n'a même pas essayé les Gardiens de la Galaxie ou quoi. On a juste directement téléchargé la toy box de la fée Clochette et elles étaient ravies quoi. Bah, d'ailleurs, c'est ce dont je parle sur l'article du blog. En fait, j'ai mis des photos d'écran de mon écran de télé et on s'y croirait vraiment quoi. On a vraiment l'impression d'avoir un jeu de la fée Clochette. C'est vraiment chouette.
D'accord.
Et de la même manière, dans le premier, bah, on avait téléchargé plein de toy box de la Reine des Neiges et elles étaient ravies quoi. Elles pouvaient jouer avec les personnages de la Reine des Neiges dans leur toy box. Elles avaient l'impression d'avoir un jeu vidéo de la Reine des Neiges.
Est-ce qu'il y a une toy box où il faut détruire la Reine des Neiges?
Mais tout de suite.
Bah non, parce qu'en fait, la Reine des Neiges, tu peux que la jouer.
Oh la vache.
Et ouais. Non, non, dans la toy box, tu peux pas mettre de personnages. En fait, il y a des petits ennemis qui sont des personnages non joueurs, très basiques en fait, mais t'as pas de, y a pas de scénario, tu vois, ça reste très très simple.
D'accord.
Mais pour les enfants, c'est parfait. Surtout les enfants très jeunes qui sont encore dans l'apprentissage de la manette, de la coordination entre le personnage à l'écran et la manette qu'ils ont dans les mains, etc. C'est vraiment nickel. Quoi.
Donc ça fera un beau cadeau de Noël en gros, t'es en train de me dire.
Ouais, franchement, ouais, c'est vraiment chouette. Moi, je trouve ça vraiment sympa.
D'accord.
Alors, le jeu, il est à combien?
Alors là, je crois que bah, ça dépend forcément d'où tu l'achètes, si tu le prends sur le net ou dans les boutiques. Mais ça doit tourner entre 60 et 80 euros, quoi, suivant.
Et ça peut revenir à combien en tout?
Bah alors, ça peut revenir très cher parce qu'en fait, les packs aventures sont à 30 euros.
Ouais.
Les figurines sont à 12,90€, donc 13 euros. Et le jeu, il est à ce que je viens de te dire, entre 60 et 80. Mmh. Mais effectivement, si tu additionnes tous les trucs qui sont disponibles, bah, ouais, ça monte à pas très cher. Mais forcément, au final, si tu achètes tout, tu vas te retrouver avec un jeu des Avengers, un jeu des Gardiens de la Galaxie et un jeu Spider-Man. Donc déjà, ça te fait trois jeux. Les jeux, ça coûte 60-70 euros. Tu fais l'addition, ça te revient super cher aussi. En fait, au final, ça revient au même prix que si t'achètes des jeux normaux, sauf que t'as pas les figurines. Quoi. Ouais.
Mais alors, pourquoi t'achètes les figurines en loose day?
C'est-à-dire... Ah, oui. parce que ça prend de la place. Hein, donc, c'est clair que...
Juste ça. Pour ceux qui comprennent pas, allez voir le blog de Mickaël.
Et c'est vrai que ça va vite hein, parce que c'est en fait les figurines qui coûtent 13 euros. Bon, pour ceux qui ont des enfants qui sont un peu habitués, les figurines Buddy Land ou des trucs comme ça de sous licence Disney, ça coûte ce prix là en fait. Ça coûte entre 12 et 15 euros quoi. Quand on va chez Toys R Us ou chez dans n'importe quelle boutique de jouets, ça coûte ce prix là. Là, on a pareil, on a le même type de figurines en beaucoup mieux faites et qui en plus sont utilisables dans un jeu vidéo parce qu'elles ont un socle en NFC et tout. Donc, moi je trouve que franchement au niveau tarif on s'y retrouve carrément quoi.
Okay. Oui, puis en plus rien n'oblige d'être tout acheté d'un coup. Enfin, là, tu peux
rien n'oblige d'être acheté d'un coup. Ouais. Et puis là, moi par exemple là, j'ai acheté la figurine de Peach là, de en amiibo là, et je l'utilise pas quoi. J'ai pas Super Smash Bros. Je m'en fiche quoi. Je compte pas l'acheter ni rien. Je l'ai vraiment acheté pour la figurine et ça me choque pas quoi. 13 euros pour une figurine comme ça, c'est pas c'est pas hallucinant quoi. Et de la même façon les figurines Disney, j'avais commencé à en acheter bien avant de penser même à acheter le jeu quoi.
D'accord.
Ok. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de Disney Infinity. D'accord. Ouais. Je regardais là pendant que tu faisais ta présentation, il me semble avoir vu qu'il était disponible sur PS3 aussi.
Ouais, PS3, Xbox 360, Xbox One, il est dispo partout celui-là.
D'accord,
celui-là
il est partout. Okay.
Je n'ai pas non plus très beaucoup cherché, c'était dans une boutique classique. Et en fait, autant le 2.0, je le voyais sur tout, alors que le normal, je l'ai vu que sur Wii. Donc, mais c'est peut-être ce qu'ils
l'avaient. En fait, c'est simple, le 2.0 est dispo partout, sauf sur Wii et sur 3DS. Et le premier était disponible partout, sauf sur Xbox One et PS4.
Ouais, d'accord. Okay.
Donc, il y a une version 3DS du premier.
Ah, ok.
Qui est vraiment nulle. Mais bon, elle existe.
Ok. Bon, tu le conseillerais à partir de quel âge pour les enfants?
Moi, mes filles de 4 ans et demi, elles s'en servent. Elles y jouent, mais bon, elles sont pas... Ouais, si, elles y jouent. Là, elles commencent maintenant. Ouais. Ça fait... ça fait quelques semaines maintenant qu'elle l'utilise de temps en temps, donc elle commence un peu à avoir la coordination qu'il faut pour déplacer les personnages. Mm-hmm. La grande, elle y joue vraiment mieux, quoi.
D'accord.
Donc la grande, elle a 6 ans et demi. Donc
je dirais, ouais. Justement, on va aller à Nicomania avec
nous. C'est une hypothèse.
Okay. Nicomania ou alors, autre.
Oui.
Après, pour le starter de départ, il faut bien calculer par rapport aux figurines qu'on compte acheter. Parce que si par exemple le pack Adventure, ça intéresse pas, il vaut mieux peut-être prendre le pack Toy Box avec en plus une aventure. Quoi. Mm-hmm. Puis il y a plein de promos aussi en ce moment un peu partout. Là, à la Fnac, dernièrement, ils faisaient, je sais pas s'ils le font toujours, mais on a 3 figurines pour le prix.
Puis aujourd'hui, au jour où on enregistre, c'est le Black Friday. Donc,
C'est Black Friday. Ouais.
Ok. Bon, ça fait un beau cadeau de Noël si, pour ceux qui sont intéressés.
Ça fera un joli cadeau de Noël pour les enfants et aussi, a priori, pour les grands.
Ouais.
Ouais.
Bon, on va passer à un jeu de société.
Oui, alors du coup, moi, pareil, hein, de par mes habitudes, j'aime bien aussi taper un peu dans les jeux de société. Et donc là, je vais présenter le Trésor des Mayas, qui est un jeu ABBA. Je suis plus en plus fan de cette marque.
Ils ont fait un carton à l'Eurovision. Hein.
Ah bah, franchement, ils sont... franchement, ouais, c'est clair. c'est un éditeur de jeu que j'aime beaucoup. C'est vraiment bien pensé. C'est qu'en fait, c'est vraiment les jeux qui sont pensés pour des enfants. Typiquement, donc ce jeu est prévu donc pour 6 à 99 ans a priori. Il est génial parce qu'en fait, tu peux vraiment t'amuser et y jouer, alors que t'as pas besoin de savoir lire. Et malheureusement, je trouve que pour beaucoup de jeux intéressants, généralement, il te faut la lecture. Donc ça nécessite l'apprentissage. Et quand t'es juste un peu avant, t'es toujours un peu frustré. Et je trouve que ce jeu est bien fait parce que finalement c'est des symboles et ça marche très bien. Donc le principe du jeu est assez simple. Il faut récupérer des gemmes. Ces gemmes, chacun notre tour, on va avoir plusieurs moyens de les obtenir en piochant au hasard justement une gemme d'une couleur. Donc pour un peu résumer... En fait, tout est sous sablier, c'est-à-dire qu'en fait, un tour de jeu, on a un sablier que l'adversaire ou la personne avec qui on joue va retourner et va cacher. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas le temps couler. Et c'est très important, parce qu'en fait, ça, allié au stress du jeu, ben finalement, c'est assez rigolo pour les enfants et pour les adultes.
C'est Fort Boyard dans votre salon.
C'est ça. C'est qu'en fait, on ne sait pas trop quand il faut s'arrêter ou pas. Parce que, donc, je reviens sur le tour, on pioche une gemme. La gemme, si, selon la couleur de la gemme qu'on a piochée, on va avoir une action à faire. Et on peut le faire autant d'actions qu'on veut. Il faut bien sûr avoir fini une action pour pouvoir repiocher une gemme, etc. Et en fait, c'est nous-mêmes qui disons non. Enfin, qu'on s'arrête. Et tout ce qu'on aura fini avant, donc, quand on dit on s'arrête, eh ben, on le récupère. Si on dit qu'on s'arrête en plein milieu d'une action, c'est possible, on ne gagne pas l'action. Par contre, si c'est l'adversaire qui, une fois le sablier s'arrête, dit qu'on doit s'arrêter alors qu'on ne l'a pas dit, on perd tout ce qu'on a fait. D'accord. Et en fait, c'est un pari. C'est-à-dire qu'en fait, on s'estime capable ou non de faire des choses rapidement et en essayant de garder une notion du temps qui passe en fonction des actions qu'on fait. Mmh. Parce que chaque action sont plus ou moins complexes, récupère plus ou moins d'or, en fait. Et donc voilà, finalement, à la fin de la partie, c'est quand même celui qui a fait le plus d'actions et qui a récupéré le plus d'or. Donc finalement, c'est un compromis entre bah, j'essaie de récupérer un maximum d'or pour essayer de gagner, à si je prends trop de risques, je vais tout perdre et je ne gagnerai rien.
Tu peux peut-être expliquer un peu les actions.
Donc voilà, au niveau des actions, je vais simplifier. C'est pour ça que en fait, les enfants peuvent jouer aussi. Ça allie finalement mémoire, dextérité, réflexe, c'est à peu près ça. En fait, il y a plusieurs actions. Donc si on pioche, il y a trois couleurs de gemmes, jaune, vert et rouge. Jaune, en fait, on repioche une gemme jaune et en fait, on n'a pas d'action. Vert, on a une carte à tirer et on doit faire l'action de cette carte. Donc cette carte, il y a 4-5 types d'actions possibles. Soit on a un jeu à la...
Comme
des caplas. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire une structure, mais attention, c'est la structure de la carte, et elle doit être exactement à la carte. Il y a plusieurs formes géométriques à faire, selon la carte qu'on pioche. soit on récupère une carte objet. Et en fait, quand on installe le jeu, on va avoir un totem au centre et puis des cartes retournées autour. Et ça va être du coup la mémoire, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir retourner la carte une par une jusqu'à trouver l'objet. Et au fur et à mesure que le jeu se fait, en fait, forcément, vu qu'on ne le redéplace pas, quand on tombe sur une carte, il va falloir souvenir où c'est pour gagner du temps, tout simplement. Une troisième carte, c'est simplement assez simple, c'est jeter une des gemmes et la récupérer dans la main. Donc ça peut paraître évident, mais sous le stress... c'est pas si évident parce qu'on dit on va pas la lancer trop haut, mais il faut quand même qu'elle sorte de la main, sinon c'est pas validé.
Et puis pour un enfant de 4 ans, 5 ans, c'est pas non plus encore très évident de savoir récupérer, de lancer, de récupérer un petit objet dans la main.
C'est ça, et en fait finalement c'est quand même sous tout l'effet du stress parce qu'on sait que le temps s'écoule et qu'il faut finir avant qu'on nous dise de nous arrêter. Et donc une quatrième action, c'est finalement une carte d'un masque où il faut aller piocher les gemmes pour mettre les gemmes de couleur sur la carte correspondante. Donc c'est un peu comme un puzzle. Et la cinquième action, finalement, c'est un peu comme un, je ne me rappelle plus le nom, le jeu du même type. C'est qu'en fait, il faut le totem dont je parlais au centre, c'est le premier qui l'attrape, qui gagne la carte et donc le trésor.
Speed Jungle.
C'est ça, le speed jungle. Donc en fait, quand cette carte-là sort, donc c'est un réflexe, c'est le premier qui récupère le totem. Donc voilà, donc le principe du jeu, c'est que finalement, chacun son tour, on va avoir ce sablier qui va s'écouler, et il va falloir prendre un nombre de cartes en fonction de la gemme qu'on a pris. On peut continuer ou on peut s'arrêter à tout moment, mais le seul truc, c'est que là, c'est est-ce qu'on continue, est-ce qu'on finit l'action, est-ce que je continue à essayer de récupérer des gemmes ou non. Et en fait, le jeu se fait très rapidement, puisqu'en fait, c'est 3 manches par personne. Donc en fait, en 10 minutes, c'est fini. Et c'est assez intense, parce que malgré tout, ce temps qui défile, dont on n'a pas notion, parce qu'il est caché à côté, et forcément, entre adultes, en plus, on va commencer à essayer de faire de l'intox, en disant, tu sais, des gros yeux ou autre, en disant, c'est bientôt fini ou non, etc. C'est en fait, finalement...
Ah, ça m'étonne pas de vous, ça.
C'est tout bête, c'est tout bête, mais au final, ça provoque juste le petit coup de stress nécessaire pour commencer à poser problème, même pour les adultes. Mmh. Donc voilà, jeu que je trouve et que je recommande vivement, parce qu'au final, tout le monde s'amuse. Finalement, les actions à faire sont finalement très bien aussi pour les enfants. Dextérité, mémoire, puzzle, vivacité, enfin c'est génial.
Ça ne doit pas demander un petit temps d'entraînement quand même?
Même
alors
pas.
Non, on a non, on a notre fils qui avec qui on a joué et qui s'en est sorti mieux que moi. Bon. Surtout pour la construction, hein, parce que.
Mais non, mais je parlais au niveau gestion de temps.
Bah bizarrement. Bah,
moi, je me suis fait avoir une fois où j'ai surestimé mes forces, on va dire, où j'ai perdu tout ce que j'avais gagné. Et après, tu apprends la prudence quand même.
C'est ça. Moi, par exemple, j'ai été trop prudent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu tellement peur que je me suis arrêté. Il reste encore la moitié du sablier.
Ah.
C'est juste gênant parce que vu que les actions sont différentes, on a du mal à percevoir le temps qui passe à faire ces actions parce que c'est de faire le plus vite possible. Et c'est juste, en fait, ça trouble la perception du temps.
D'accord. Ouais,
c'est finalement, les enfants, eux, subissent peut-être moins la pression qu'on pourrait avoir en tant qu'adulte.
Et on est gentil aussi.
Et on est gentil, bien sûr. On rappelle aux enfants qu'il ne faut pas qu'ils soient trop gourmands. Mais ils se débrouillent bien.
Ok.
Donc voilà.
Et donc, à partir de quel âge, ouais.
Pardon ?
À partir de quel âge, à peu près, on peut
jouer. Là, sur la boîte, ils mettent 6 à 99 ans. Bon. Ouais.
Vu qu'il n'y a pas besoin de savoir lire, rien, franchement, 4 ans et demi, 5 ans, ça passe. Hein.
Tout fonctionne sur les symboles. Ouais, 4 ans, pour moi, 4 ans, il n'y aura pas de problème.
Ouais, ok.
Ça coûte combien cette affaire?
Alors, une dizaine d'euros?
Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, nous, on l'a récupéré.
Oh, c'est chouette.
Non, celui-là, on ne l'a pas récupéré dans la brocante.
Ah, ça y est, ils vont s'engueuler.
Ben voilà.
10 et 15 euros, ça dépend.
D'accord. Oui, ça va, ça reste abordable comme divertissement.
Voilà. Et juste pour donc dire, ce jeu en particulier de ABBA a eu le prix du public 2008 à Saint-Herblain.
D'accord.
Voilà, c'est marqué sur la boîte, donc je le...
Ok, bon, c'est à mon tour. Alors, je vais vous recommander un jeu vidéo qui, pour une fois, n'a aucune histoire. Mais n'en est pas pour le moins intéressant, sinon j'en parlerai pas. Il s'agit de Robocraft. Alors, je pense que nous tous ici, on a passé une partie du temps de notre enfance à jouer au Lego.
Même pas vrai.
Tu vis quelque chose en particulier ?
Par contre, on a peut-être pas tous, on s'est peut-être pas tous amusés à construire un véhicule, à inventer un véhicule en Lego et à le faire s'affronter face à un autre véhicule qu'une autre personne aurait construit et à les faire s'entrechoquer jusqu'à ce qu'un des deux périsse.
Oh, c'est génial ça.
C'est, dans l'idée, c'est pas mal.
Oui, oui. Non, ce serait, je sais que ce serait traumatisant de voir tes petites pièces de Lego voler dans tous les sens.
Ouais.
Michael, t'as déjà fait ce genre de choses ?
Bah écoute, ouais, je me souviens qu'on avait, avec mon frère, on avait des Lego et en fait, on n'arrivait jamais à refaire les trucs, les vaisseaux d'origine parce qu'on faisait n'importe quoi avec, quoi. Donc on faisait nos propres vaisseaux, effectivement.
Le dis pas trop fort, il y a Arnaud, le dis pas trop fort.
Mais c'est ça qui est bien dans les Lego, ça développe l'imagination, ça fait sortir de
Je suis un psychorigide des Lego et j'assume entièrement.
Alors,
imagine un peu une caisse pleine de Lego de l'espace vintage, mais tout mélangé, sans notice, sans rien.
Donc, alors, voilà. Fort de ce constat, en fait, Robocraft, c'est ça. Ça mélange Minecraft, donc pour ce côté, on va créer quelque chose, et ça mélange... bah du coup peut-être un peu Overwatch qui est pas encore sorti et World of Tanks. En fait le but c'est de construire son robot, donc on a différents types de pièces à notre disposition. On peut construire des robots qui roulent, des robots qui planent, des robots qui volent ou des robots qui marchent, pareil, on va les équiper de différents types d'armes, des lasers, des railguns, des rayons à particules qui peuvent et faire des dégâts et soigner, donc reconstruire les vaisseaux alliés.
Des bazookas ?
Non, alors c'est pas des bazookas, c'est des plasma guns, donc c'est des charges de plasma qui explosent. Ça explose quand même, Céline, t'inquiète pas.
Non mais c'est bien aussi. Ouais.
Donc voilà, et en fait, le but c'est de construire le meilleur robot qui va permettre à son équipe de remporter la victoire. Donc c'est des matchs 10 contre 10 et je trouve ça formidable parce que ça développe la créativité. On peut quasiment tout faire avec les il y a 4 types de pièces de construction qui nous sont données et avec ça on peut quasiment tout faire. Moi j'en aurais rajouté une cinquième parce que des fois il manque un type de pièce pour faire des angles un peu spécifiques, mais on peut déjà faire beaucoup de choses. Je vois, moi, je me suis battu dans l'équipe adverse. Il y avait un Bob l'éponge maléfique. Il y avait un samouraï brandissant un sabre sur une moto. Il y avait Dora l'exploratrice.
Donc, pourquoi t'as tué Dora l'exploratrice ?
Je sais plus si je l'ai tué ou si c'est elle qui m'a tué. Bob l'éponge, je l'ai eu, mais Dora, je sais plus. je trouve qu'avec son enfant, dire voilà, on va construire ça, on va construire ce vaisseau. Alors ça peut prendre énormément de temps, hein, parce que vraiment c'est bloc par bloc. Et de se dire voilà, on va faire son vaisseau. Selon l'arme qu'on met, on peut pas mélanger différents types d'armes. Et c'est ça qui va définir la classe dans laquelle on va être. Si on va être plutôt un gros bourrin en attaquant, si on va être une classe de soutien ou une classe de soin. Y a aussi vraiment un vrai travail d'équipe parce qu'on peut dire quand on voit un ennemi au loin, on appuie sur une touche et sur la map on dit il y a un ennemi là-bas, du coup on se jette tous dessus, le but en fait c'est soit de détruire l'équipe adverse soit de capturer la base adverse en y restant assez longtemps pour remplir les 4 quarts d'énergie nécessaires. Si on se fait tirer dessus quand on essaye de prendre un quart d'énergie, la barre revient à zéro. C'est aussi bête que ça. Enfin, bête, entre guillemets. Il y a une progression. Donc, il y a 10 niveaux, 10 tiers d'équipement. Plus on se rajoute d'équipements, plus notre niveau dans le tiers augmente jusqu'à passer le tiers suivant. Ce qui fait qu'on on peut pas trop se retrouver en déséquilibre avec quelqu'un qui est super stuffé et quelqu'un qui a trois pauvres canons qui se battent en duel. Et au fur et à mesure des victoires, on va du coup gagner de l'argent, gagner des points de tech. Et les points de tech vont servir à débloquer des pièces de tiers supérieur et l'argent à acheter ces pièces. Le jeu est gratuit, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'essayer. Par contre, la progression se fait assez lentement. C'est genre un freemium, quoi. C'est un free-to-play. Du coup, on peut acheter des jours premium, en fait. Des points qui te font passer en jours premium, etc. J'ai trouvé le jeu tellement intéressant, tellement bien fait que j'ai acheté le premier pack qui m'a donné un certain nombre de points, qui vous donne la possibilité en fait d'être en premium pendant 2 ou 3 semaines. Et là, la progression, elle se fait vraiment de manière fluide et agréable. Ça veut dire que les points qu'on remporte à la fin, qu'on gagne ou qu'on perde, les points sont doublés. Et il y a un autre mode de jeu qui est assez intéressant, c'est quand on est dans les derniers tiers, on peut jouer le rôle du boss. Une fois par jour, on peut dire, voilà, on est le boss et on affronte 10 autres petits niveaux, à partir du niveau 3, 4.
D'accord.
Et voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui mêle créativité, inventivité, la passion de construire, et c'est toujours rigolo de voir après ta création s'en prendre plein la tronche ou en foutre plein la tronche aux autres. Voilà, donc on peut avoir plusieurs vaisseaux, par contre les pièces on les partage pas, c'est à dire que si tu utilises une pièce sur un vaisseau, tu peux pas la réutiliser sur un autre vaisseau, faut les acheter. On peut se faire des projets fous comme ça. Donc moi là, mon projet en ce moment, c'est reconstituer le vaisseau de Captain Harlock de Albator.
Burkazia, donc.
Voilà. Alors, je sais pertinemment que comme c'est un truc Arcadia, immense.
Quel Arcadia, c'est ça la question.
Je saurais. Je crois que c'est un des derniers qui est.
T'as celui de 78, 84, celui de Endless Odyssey, après celui du film qui est sorti dernièrement.
Non, c'est pas celui du film. Je crois que c'est celui de 84.
Ouais.
Je crois que c'est 84. Enfin, je sais que c'est un truc que je vais me faire démolir tellement il est énorme, quoi. Mais c'est juste pour le fun de le faire.
Mais du coup, le nombre de pièces, c'est pas limité par ange.
Quand
t'en achètes, c'est bon, quoi.
Oui, voilà, mais t'es quand même limité par la taille de ton hangar.
Ah ouais.
Mais ton hangar, il est grand. Hein,
t'es mort, tu peux plus fermer la porte.
Voilà. Non. Ton hangar, il est vraiment grand. Le vaisseau que je suis en train de faire, je crois qu'il compte 50 blocs de long.
Ouais.
C'est vraiment immense. Franchement, il y a de quoi faire.
Et du coup, quand tu commences, ça, au tout début, tu peux faire des vaisseaux.
Au tout début, en fait, les pièces que tu as, donc c'est des pièces vraiment faibles, mais tu peux elles sont gratuites.
Ouais.
Donc tu peux, t'as un stock illimité. Tu vas très vite passer au tiers supérieur et donc où il faut que t'achètes. Mais déjà, si tu veux juste créer, tu peux. T'auras pas tout un choix de couleurs, t'auras pas, ça sera gris clair ou gris foncé. Mais déjà, tu peux faire un truc no limit.
D'accord, ok.
Donc, presque nos limites, parce que, j'ai oublié de dire ça, quand tu prends des niveaux, en fait, ton robot, il est géré par un CPU, avec une puissance de calcul, et donc, selon les pièces que tu mets, ça va te demander plus ou moins de puissance de calcul. Une pièce de structure, c'est un teraflop ou un pétraflop, je sais plus. Enfin, c'est un truc flop. Une pièce de structure, c'est 1. Par contre, quand tu mets un canon, ça va te faire 40. Il y a moyen de faire de la structure très très large, très vite. Donc voilà, c'est dispo sur Steam, c'est dispo sur d'autres petites plateformes. Mais il n'y a aucune raison de ne pas aller sur Steam. Ah oui, le jeu est encore en développement. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas radins. Parce que quand il y a des problèmes de serveur, ce genre de choses, quand il y a Halloween, quand il y a... ils lâchent des codes pour tout le monde pour que pour un jour, deux jours de premium.
D'accord. Ah ouais.
Donc franchement, c'est une super équipe de développement. Voilà. Les maps sont... Pour l'instant, il y a assez peu de maps. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est en développement. Mais voilà. Donc il n'y a aucune raison de pas au moins le tester. Mais je pense que l'essayer, c'est l'adopter.
Et donc c'est uniquement sur PC.
C'est uniquement sur PC, ouais.
Ouais.
PC et Mac. Parce que je joue sur Mac.
Et Mac avec Windows.
Et Mac avec Windows. Attends, il est peut-être sur
Linux. Ah non, il y a Linux aussi.
Ouais,
Linux.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est peut-être sur Linux.
Ouais, il y est.
Ouais. Donc voilà. Bon, en tout cas,
ça a l'air vraiment sympa. Hein.
Ouais. Si vous avez un écran, un clavier, c'est bon. Et un ordinateur, c'est compatible. Puis ça demande pas énormément de ressources. Hein. Ça tourne sur des petites machines. Ça peut tourner sur des grosses machines quand on met tout à fond, mais ça tourne sur des petites machines sans problème.
Ah oui, effectivement, là on vient d'ouvrir une page internet avec RoboCraft, c'est sympa les robots qu'on peut faire.
Ah oui, t'as vraiment des trucs. Tu peux refaire les petits avions dans StarCraft 2, tu peux. Vraiment, t'as peu de limites. Hein, t'as peu de limites.
D'accord.
Donc voilà, ça c'était mon jeu du mois. On va finir avec les dames. Oui. Avec un autre jeu de société.
Oui, et bien, toujours dans la gamme HABA, ABA. alors celui-là, nous avons fait un vide-grenier il n'y a pas très longtemps. On l'a trouvé, c'est bien, c'est des boîtes jaunes, ça se voit de loin. On l'a trouvé à 5 euros, une personne revendait. Du coup, on l'a acheté, ça s'appelle Inspecteur Lapinou. Alors, c'est pour les enfants, hein, vu le nom.
Oh.
Forcément, donc les enfants à partir, pareil, de 6 ans, bon, nous, 5 ans, ça passe. Donc le principe, on est donc par personne, on a deux petits lapins, deux petites figurines lapins, et en fait c'est un jeu de memory. Le but c'est de retrouver des bandits, mais pour pouvoir arrêter un bandit, il faut arrêter la paire en fait. Et bien sûr les bandits sont dispersés sur tout le plateau et pas forcément l'un à côté de l'autre. Et pour pouvoir arrêter la paire de bandits, avec nos deux lapins, on doit en placer un devant la case d'un des bandits et le deuxième sur l'autre case. Donc, ça se joue avec deux dés, un dé 1 à 6 et un dé numéroté de 1 à 3. Donc, nous, on a eu la surprise quand on a ouvert la boîte de ne pas retrouver le petit dé, ce qui n'était pas forcément évident parce que du coup, ça a énormément rallongé la partie.
Donc depuis, on a corrigé l'erreur, on est allé dans un magasin qui va bien et on a pris un dé. Trois faces.
Voilà. Donc sinon, la partie avait duré une bonne vingtaine de minutes, mais je pense qu'on peut rétrécir un petit quart d'heure. C'est sympa, c'est un jeu de mémoire, donc les enfants sont très doués. Bon, alors le mien n'était pas très concentré ce jour-là, il s'est fait littéralement poutrer par ma copine qui a 34 ans. Elle était super, super à fond, par contre. Hein. Donc, preuve que ça intéresse aussi bien les petits que les grands. C'est rigolo. Le plateau est sympa. Les illustrations sont jolies. Et voilà, ça fait passer aussi un bon moment.
Oui,
c'est
parce
en
que...
bois, c'est joli.
Chaque joueur contrôle deux lapins, en fait.
Chaque joueur contrôle deux lapins. Et en fait, c'est un peu tactique parce qu'il faut pouvoir bouger son lapin. En fonction de là où tu te souviens qu'il y a la deuxième figurine de ton... Enfin, la deuxième image du bandit que tu vas attraper, en fait.
D'accord, ok.
Et il faut le faire avant que les autres le fassent.
Oui.
Donc, il faut déplacer ces lapins assez rapidement ou les laisser à l'endroit que tu penses qu'il y aura... de la paire que tu veux avoir.
Et on peut se faire, dégager d'une case sur laquelle on est par un autre ou
non, on peut pas. On peut pas se faire. Alors non, parce que justement, c'est ce que j'allais y venir. Vu que c'est pour les enfants, il n'y a pas de choses un peu vicieuses, si je puis dire comme ça. On peut bouger ses lapins dans tous les sens, sur tout le plateau. Et si par malheur on devait s'arrêter sur une case qui était déjà occupée, c'est comme les petits chevaux. Enfin non, les petits chevaux, on dégage. Mais en fait, là, on s'arrête sur la case d'après.
D'accord. Donc en fait, quand on a décidé de débusquer deux brigands, là, on n'a qu'à se poster devant le premier et amener l'autre.
Exactement. Donc,
ouais, voilà. Donc, en fait, le challenge, c'est plutôt que l'adversaire n'aille pas se mettre devant la deuxième case avant soi, quoi.
Exactement, tout à fait. Ouais. C'est ça. Okay. Et puis, c'est aussi avoir un peu de chance au dé. Bah là, d'où le fait d'avoir deux dés, parce que c'est vrai que quand tu as, quand t'es juste à côté de la case que tu veux avoir et que tu fais que des 5 ou des 6, ça, c'est un peu énervant.
Ah,
là,
oui, c'est... voilà. Oui, c'est ma question d'après, c'est ça. C'est est-ce qu'il faut faire le nombre exact ou est-ce qu'on peut s'arrêter avant?
Non,
c'est
faut faire le nombre exact.
Et c'est pour ça, en fait, tu lances deux dés, comme ça, tu peux choisir le.
Oui, parce que tu voilà. Tu peux jouer uniquement avec le grand ou uniquement avec le petit et avec les deux.
D'accord, ok.
Il est assez flexible. C'est vraiment un jeu qui est assez flexible dans ses règles. On peut bouger n'importe comment. Enfin, non, c'est pas mal. Et en plus, les parties sont à chaque fois différentes parce que vu que tu poses, en fait, c'est des petits ronds en plastique que tu poses face retournée sur le jeu. Et vu que tu les poses un peu n'importe où, les brigands, finalement, sont jamais au même endroit. Donc
Et puis, il faut quand même voir que les brigands sont quand même assez rigolos.
C'est des petits animaux.
Voilà, t'as un hérisson avec un petit masque noir façon
un raton laveur parrain de la mafia
façon Zorro, c'était assez rigolo, voilà, un chat western, enfin
d'accord,
c'est assez rigolo, c'est bien illustré. C'est très enfantin, hein, mais finalement...
Oui, c'est très enfantin. Je pense que personnellement, d'ici 1 ou 2 ans, ça n'intéressera pas le plus grand, enfin plus le plus grand, mais bon, comme on en a un derrière, on gardera encore le jeu quelques années. Mais oui, je pense que par contre, c'est un jeu où les enfants ils peuvent se lasser vite, peut-être par la facilité. Et puis bon, voilà, ça reste qu'un jeu de mémoire, quoi. Au bout d'un moment, il faut leur donner d'autres challenges.
C'est, voilà. Disons que c'est divertissant pour passer une après-midi plutôt que de changer un peu, plutôt que de faire la console ou n'importe quel jeu de cartes. Voilà, c'est divertissant. C'est vrai que par contre, à répétition, c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté. Parce que on peut s'en lasser rapidement.
Oui. Puis les enfants se déconcentrent facilement, donc c'est vrai que les fins de partie
c'est moins intense, par exemple que le jeu que je présentais avant, où on est vraiment en perpétuelle attention. C'est plus en défi, alors que là c'est plus pour passer un bon moment pendant l'heure du goûter, par exemple.
D'accord.
Ok. Ça y est, on a fait nos recommandations. Donc, par ordre, on vous a conseillé Disney Infinity, Trésor de Maya, Robocraft et Inspecteur Lapinou. Faites votre choix, je pense. Ouais, il y a, à part le mien, ça fait des beaux cadeaux de Noël.
Oui, bah, le tien est sympa aussi.
Oui, mais ça fait pas un cadeau, c'est gratuit. Désolé, je présente des trucs gratuits, je m'en veux.
Mais c'est ça, mais au contraire, très bien.
Ok, bah alors on va passer à la dernière rubrique. Et quoi d'autre ce mois-ci ? Alors, pour finir, et quoi d'autre ? Eh bien, ce mois-ci, je vais vous proposer un moyen-métrage d'animation. Ça s'appelle The Garden of Words. Ça n'a pas été traduit. ou alors, je n'ai pas trouvé la traduction. De Makoto Shinkai, c'est paru en 2012. Alors, Makoto Shinkai, est-ce que vous connaissez ce monsieur ?
Non.
Absolument pas.
Pas du tout, non.
Non. Vous n'êtes pas sans savoir que le studio Ghibli va fermer ses portes.
Oui.
C'est pas tout à fait
oui,
ça. En fait,
oui.
Hein.
Alors va terminer son activité principale.
Ouais.
Il y a 2 ans. Oui, de 2 ou 3 ans, j'ai découvert Makoto Shinkai qui a relégué le studio Ghibli à la deuxième place de mon top des animés japonais.
Ouais.
Mais vraiment de très loin, hein, de très très loin. Makoto Shinkai, donc, c'est quelqu'un qui réalise, produit, qui participe du début jusqu'à la fin à ses films. Il en a fait peu, parce que bah, justement, ça lui prend énormément de temps. Alors, pour vous dire un petit peu la filmographie de Makoto Shinkai, c'est en 99, She and Her Cat, elle et son chat. Donc ça, c'était son premier c'était un court-métrage. Ensuite, La Tour au-delà des nuages, en 2004. En 2007, 5 cm par seconde. En 2011, Voyage vers Agartha. Et en 2012, The Garden of Words.
Ouais, donc effectivement, c'est quand même des gros titres qui ont bien marqué ces derniers temps. Quoi. C'est des, voilà. Ça sort du lot, quoi.
Ouais, c'est... d'autant que c'est pas des histoires qu'on a l'habitude de suivre. Alors, peut-être un peu moins pour Voyage vers Agartha, mais pour les autres, c'est très, très spécial. Hein. Faut pas s'attendre à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc pour The Garden of Words, l'histoire, c'est Takao, qui est un jeune étudiant. Il veut devenir cordonnier et les jours de pluie, il sèche les cours. Non, je ferai pas le jeu de mots. Il va s'arrêter dans un jardin typique japonais et il s'abrite sous un abri et il y a une femme qui est là aussi les jours de pluie. Donc lui, il dessine sur son carnet et au bout d'un moment, il commence à discuter, ils font connaissance. Alors elle est plus âgée que lui, hein. Elle c'est une adulte. Et ils finissent par sympathiser et à attendre l'autre chaque jour de pluie. Parce que c'est la saison des pluies, il y a une saison des pluies au Japon. La fin de la saison des pluies arrive et qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont continuer à se voir, etc. Ça raconte l'histoire qui se passe entre ces deux personnages dont on ne sait pas grand chose finalement. On en apprendra un petit peu plus mais à la fin je ne veux pas vous spoiler, voilà. Mais finalement, on ne sait pas grand-chose d'eux, mais c'est vraiment le sujet, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnages dans ce lieu. Qu'est-ce que ce lieu va apporter à ces deux personnages, comment ils vont finir. Il y a une relation qui est plus ou moins ambiguë, parce qu'elle, elle est plus âgée, ça ne se fait pas, il y a les conventions japonaises, il y a tout un tas de choses, plus des trucs qui vont compliquer, enfin voilà. C'est intéressant. Donc ça dure 40 minutes, je crois. Hein. Ça dure 46 minutes. Et c'est à tomber par terre. Prenez un tableau. Un tableau qui vous émerveille. Et ben vous avez ça pendant 46 minutes visuellement. Makoto Shinkai, déjà, c'est à voir en HD. Ou en Blu-ray, il n'y a pas moyen de le voir en DVD, c'est un crime, vraiment. C'est une tranche de vie, et par contre, c'est pas à regarder les jours où on est déprimé. Quand on regarde les films de Makoto Shinkai, comment ils sont classés, il y a souvent marqué animation, et le deuxième mot qui arrive, c'est drame. Donc,
comme le tombeau des Lucioles, ou c'est...
Non. On n'est pas du tout sur le même registre. Là, on est vraiment sur tranche de vie contemporaine.
D'accord.
Tranche de vie contemporaine. Généralement, c'est des films qui vont pas parler du tout aux gens qui ont, on va dire, moins de 20 ans. Et c'est des trucs très adultes et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, mon conseil, The Garden of Words, le jardin des mots. Et vous passerez un moment peut-être bizarre, mais un moment en dehors de ce que vous avez l'habitude de voir et d'écouter.
Ok.
Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie.
Ouais,
carrément. Et surtout avec le bizarre.
En tout cas, visiter là.
De quoi ?
La curiosité est là.
Ah, bon, bah c'est bien, j'ai réussi alors. Je suis content, je vais pouvoir aller me coucher. eh bien, on arrive à la fin. Ça y est, après Après avoir été très bavard, on est à 1h30 d'émission, hein. Donc c'est ce qu'on disait hors antenne, on a vu qu'on avait un programme chargé, donc on a volontairement laissé tout. Donc si vous trouvez que c'est pas gênant d'avoir une émission un peu plus longue que d'habitude, parce que on hésite à faire un peu plus long qu'une heure, et voilà, donc là on s'est dit voilà, dites-le nous, comme ça on voit, on adapte si on a le droit, si on s'autorise des émissions plus longues. On va terminer par, où est-ce qu'on vous retrouve, où est-ce qu'on peut nous retrouver et vous retrouver. Donc, Michael, redis-nous, c'est au cas où les gens ont et oublié, redis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet.
J'ai un blog, une page Facebook et un Twitter qu'on peut retrouver facilement en tapant Papa Cube dans les différents moteurs de recherche. Donc, Papa Cube comme un papa et comme un cube. Voilà.
Voilà. Le blog, c'est papacube.com.
.com, voilà.
Voilà.
Twitter, c'est papacube.
Oui. C'est papacube partout.
Voilà, c'est ça.
Arnaud et Céline, on vous retrouve où ?
Bah, chez nous. Pour un coup.
donc ici dans Papa à quoi tu joues, sur papaaquoitujoues.fr, sur iTunes, sur SoundCloud, sur Twitter. Alors surtout les comptes Twitter, Facebook et Google+, c'est moi qui les administre. Et on nous retrouve aussi sur Patreon. patreon.com/papaaquoitujoues si vous voulez nous soutenir. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires iTunes, ou à nous donner des petites étoiles. On est à 4 étoiles et demie, ça nous fait très très plaisir. Et il nous reste plus qu'à vous dire, qu'à vous souhaiter un bon mois de décembre, d'avoir plein de cadeaux au pied du sapin. Je ne referai pas le Père Noël pour le générique
non,
de
non,
fin.
Non, ça va aller. Je souhaite à tous de bonnes fêtes, du coup, j'en profite.
Ouais.
De bonnes fêtes de fin d'année, que tout ça soit joyeux.
Oui, mais de tant qu'à faire.
Le Christmas spirit.
J'ai oublié de le dire parce que je dois le dire aussi, parce que le générique, c'est. Retro Arts 8 Cents Remix fait par Skull Beats, qui est dispo sur newsground.com, qui nous met à disposition généreusement son générique sous réserve qu'on le cite. Donc, joyeux Noël à tous. Passez de bonnes fêtes. Nous, on est de retour. Alors là, on sera de retour sans Michael. Mais on ne s'interdit pas que tu reviennes une fois de temps en temps.
Ah bah avec plaisir. Hein.
Y aura peut-être des nouveautés pour l'année 2015. On verra. Je tease un peu, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes. Faites de gros bisous à vos loulous et on vous dit au mois prochain pour la nouvelle année 2015. Ciao à tous.
Donc du coup, ciao, ouais. À l'année prochaine.